ce que je vais dire. Je suis très 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 heureux d'être là, de retrouver Jean-O, son épouse, et que j'ai vu entre-temps, hein, entre leurs études à Pfastatt, et aujourd'hui, donc on s'est vu 2-3 fois. Et donc je suis très très heureux de voir d'anciens étudiants qui servent le Seigneur en France, et il y en a pas mal maintenant de la fac. Et donc, merci Seigneur pour son œuvre dans sa vie, dans la vie de son épouse, et dans le service que les uns et les autres peuvent rendre au Seigneur. Alors, je suis alsacien, enfin je suis originaire d'Alsace, et j'étais très longtemps dans la région parisienne, donc à Vaux-sur-Seine, à la faculté. Nous avons déménagé il y a maintenant 4 ans à peu près, de nouveau en Alsace, à Célestat. Et je suis membre d'une église perspective, enfin de l'église perspective de Célestat. Donc je suis d'autant plus content d'être ici, puisque je suis là dans une église sœur. Alors merci de m'accueillir. Alors ce soir, cet après-midi, on va donc faire un survol, c'est ambitieux, hein, trop peut-être, un survol de l'Apocalypse, mais en même temps, on va peut-être pour la plupart d'entre vous, vous allez découvrir une œuvre fantastique. C'est la tenture du château d'Angers. Alors, c'est une tenture qui nous parle de l'Apocalypse. Je vais rapidement la présenter, puis nous allons entrer dans le livre lui-même de l'Apocalypse. Alors, je vais voir comment ça marche. Ça ne marche pas comme ça, ça marche comme ça. Non, ça marche comme ça. Ah, ça marche comme ça. La tenture de l'Apocalypse, château d'Angers. Alors, voilà le château. Si vous n'avez jamais eu l'occasion, je suis obligé de me tourner un peu, hein, puisque j'ai rien ici. Si vous n'avez jamais vu le château, ça vaut le coup, hein, de passer un jour à Angers, de visiter la ville. C'est une très belle ville, il n'y a pas que ça, Angers, hein, et c'est une très belle ville, et le château en particulier est très très beau. Et dans ce château, vous avez ce qu'on appelle la tenture, la tapisserie du château d'Angers. Alors voilà une partie de cette tapisserie qui est photographiée. C'est extrêmement impressionnant. Un peu, un mot sur l'histoire de la tenture pour que vous voyez l'intérêt de prendre ça comme une sorte de soutien à la présentation de l'Apocalypse. Elle date de la fin du XIVe siècle, 1380-1382, et c'est une commande du duc Louis Ier d'Anjou. L'Anjou était une province, un pays extrêmement florissant. Et le duc Louis Ier d'Anjou a pu se permettre de faire cette commande, qui était une commande extrêmement chère. Alors, elle a été fabriquée vraisemblablement à Paris dans les ateliers de Robert Poinçon, d'après les spécialistes, et d'après les cartons du peintre attitré du roi de France, Charles V, qui s'appelle Hennequin de Bruges. Il l'appelle aussi Jean de Bruges. Alors, ce sont ce qu'on appelle des miniatures que Jean de Bruges avait fait pour des manuscrits. Et c'est à partir de ces miniatures qu'on a créé les tapisseries, hein, qu'on a reproduit les dessins pour créer les tapisseries. Puis, cette tapisserie a été léguée à la cathédrale d'Angers au XVe siècle par le roi René d'Anjou, personnage très important dans l'histoire de France, si l'on veut. Et malheureusement, à la fin du XVIIIe siècle, au début du Xe siècle, c'est une période de dégradation et de dispersion. On a coupé les morceaux de la tenture, parce qu'il y a des grands panneaux, vous allez le voir, qu'on a un petit peu éparpillés. Et heureusement, cette tapisserie a été recomposée de manière partielle, il y a des panneaux qui manquent, à partir de la moitié du XIXe siècle. C'est une œuvre unique dans le monde. Elle est exposée donc à la galerie du château d'Angers, inaugurée. Donc la galerie a été inaugurée en 1954, et vous pouvez aller la voir. J'utilise un DVD, je pense que j'ai le droit, mais bon, ne priez pas sur les toits, hein. Un DVD qui est vendu là-bas, j'utilise pour vous présenter cette tenture. Et en fait, c'est de la pub que je fais pour le château d'Angers, donc ils vont être contents. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est le plus important ensemble de tapisseries médiévales subsistant au monde. Il y a 6 pièces successives, donc vous voyez, 6 pièces. Successives, découpées chacune en 14 tableaux. Vous avez 6 grands panneaux divisé en 14 tableaux, et chaque fois entre les panneaux, vous avez un panneau vertical qui sépare. On le voit là. Vous avez en tout 84 panneaux. À l'origine, elle faisait 850 mètres carrés, 126 mètres de long. Vous imaginez, quand vous arrivez dans la salle, c'est impressionnant. Là, on est dans une petite salle ici. C'est une immense salle, très impressionnante. Aujourd'hui, il n'y a plus que 104, je vous ai dit qu'il y a des panneaux qui avaient été perdus, 104 mètres, et certains tableaux sont incomplets. Donc vous voyez, un truc, malheureusement. Et le thème de toute cette tenture, de toute cette tapisserie, c'est l'Apocalypse. Alors bien sûr, c'est l'Apocalypse tel qu'il la comprenait à l'époque et tel qu'il s'en représentait. Alors vous allez voir des chevaliers, vous allez voir des chevaux qui sont harnachés, vous allez voir la manière dont on se représentait les choses à l'époque, habillés comme à l'époque, 14e siècle, mais ça va être intéressant pour un peu rentrer dans ce livre de l'Apocalypse. Alors le contexte que l'on retrouve dans les panneaux. Alors dans les panneaux, vous avez ce que dit l'Apocalypse, mais vous avez aussi parfois des petits indices où vous présente le chevalier noir, qui était un gros problème à l'époque, avec des massacres. Il y avait deux événements très particuliers qui ont marqué cette époque. La peste noire, la Covid, c'était de la rigolade par rapport à la peste noire. Ça a été une catastrophe à l'époque, un petit peu auparavant. Donc un tiers de la population européenne a été décimée, un tiers de la population. Et vous aviez un deuxième événement que l'on retrouve dans les panneaux comme suggérant qu'il y avait des liens avec ce que dit l'Apocalypse. Vous avez la guerre de 100 ans, le roi anglais de l'époque et le prince noir, donc Edward de Woodstock, qui sont représentés. Et vous voyez parfois les ennemis qui sont représentés habillés comme des Anglais. C'était la guerre de 100 ans. Alors maintenant, j'aimerais rentrer dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. Alors, comment se présente ce livre? Alors, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, ça, vous le savez tous, qui n'est pas toujours facile d'abord, alors que c'est un livre très simple. Mais bon, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, et il date de la persécution des chrétiens sous Domitien. Domitien, c'est l'empereur romain qui régnait à la fin du 1er siècle. Et c'est l'apôtre Jean qui a écrit ce livre et qui a été exilé. Là, vous avez la Grèce à gauche, la Turquie à droite, le point rouge, c'est l'île de Patmos. Et c'est là que l'apôtre Jean a été exilé à cause de la persécution sous l'empereur Domitien. C'était une persécution assez importante, surtout en Asie mineure, selon ce que l'on peut restituer à partir de certains documents, de certaines données, qui ne sont pas très nombreuses. Donc c'est sous l'empereur Domitien. Alors, qu'est-ce que c'est l'Apocalypse? C'est en fait une lettre. C'est une lettre qui a été envoyée telle quelle à sept églises de l'époque que vous avez ici. Patmos, c'est la petite île, et vous avez donc les églises que vous avez là, et ces églises, et c'est l'ordre dans lequel se présente le nom des églises, dans les lettres aux sept églises que l'on trouve au début de l'Apocalypse, en fait c'est la route, c'est une route, et l'ordre correspond à l'ordre des villes qui se présentent sur cette route. Donc, une lettre qui a été envoyée à sept églises différentes. Alors, quel est le thème général de l'Apocalypse, tel que nous allons le découvrir au travers de la tapisserie? C'est une sorte de vision chrétienne de l'histoire. La conception, une conception chrétienne de l'histoire. Et cela commence avec l'ascension du Christ, on va le voir en gros, et jusqu'au bout de l'histoire. C'est un petit peu une façon que Jean a de nous présenter, de nous décrypter l'histoire du monde, l'histoire de ce qui va se passer, et dans lequel dans cette vision, il s'agit d'y entrer pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui encore. On va le voir. Alors, Jean-Haut va me dire, tiens, ça c'est, je reconnais bien là, le professeur que j'ai eu. Il est très important, quand vous étudiez un livre de la Bible, quand vous étudiez un texte, de ne pas tout de suite vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il faut d'abord vous dire comment il le raconte. Les livres de la Bible ne sont pas des poubelles. Les choses y sont organisées, structurées, classées, mises en ordre. Eh bien, l'Apocalypse, se présente avec un ordre. Et attention de ne pas projeter comme ça ses idées dans le texte en disant « Ah oui, ça, moi je pense que c'est ça, ça ». Non, 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 il faut d'abord voir comment ça fonctionne. Je dis souvent aux étudiants, si vous savez, si vous voulez aller de Strasbourg à Marseille, vous avez intérêt à prendre la carte et à suivre l'itinéraire. Parce que si jamais vous voulez aller tout droit, vous allez avoir des problèmes. Et vous allez foncer dans les arbres. Il faut suivre la structure, suivre la route que présente le livre lui-même pour comprendre le livre. Et qu'est-ce qu'on découvre lorsqu'on essaie de comprendre la manière dont l'Apocalypse est structurée, organisée, ce qui nous ouvre la porte à la compréhension? Eh bien, on trouve qu'il y a 7 septennaires du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire 7 séries de 7 choses. Toute l'Apocalypse. Dans toute l'Apocalypse, il y a 7 septennaires. Et chaque septennaire est composé de 7 choses. Rentrons un peu dans le détail. Il y a le premier septennaire. Non, il y a d'abord un grand cadre. Ce qui est et ce qui va arriver après. Quand Jésus apparaît à Jean, il dit « Je vais te montrer ce qui est et ce qui arrivera après. » Ce qui est. Premier septennaire. C'est le Fils de l'homme qui apparaît et il dit à Jean, écris aux 7 églises. Et vous avez 7 lettres écrites dans cette grande lettre que constitue l'Apocalypse. Premier septennaire. Et ce septennaire est introduit par la vision du Fils de l'homme, Jésus-Christ, au milieu des 7 chandeliers qui sont les 7 églises auxquelles il faut écrire les 7 lettres. Deuxième septennaire. Là maintenant, c'est ce qui va arriver bientôt. Vous avez le trône céleste dans le ciel. Et vous allez avoir l'agneau qui va ouvrir les 7 sceaux. Deuxième septennaire. Troisième septennaire. Vous voyez de nouveau le trône céleste. Alors là, je vais dire quelque chose à ceux qui font jouent les jeux vidéo. Alors moi, je suis un peu un croulant dans l'histoire, un vieux. Moi, j'ai bien connu le Game Boy. Alors, certains ne savent même plus ce que c'est une Game Boy. Hein. Bon, maintenant, vous avez tous les jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est un jeu vidéo? Comment ça se passe, si je comprends bien? Ben vous avez une porte et vous entrez dans un monde. Puis vous faites plein de choses. Alors soit vous massacrez tout le monde, soit vous arrangez les choses. Ça dépend ce qu'il y a dans le monde. Et puis à la fin, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre. Et vous passez dans un deuxième monde. Puis une nouvelle porte, troisième monde. L'Apocalypse, c'est un jeu vidéo qui n'est pas un jeu. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Chaque fois, vous avez une porte. Et cette porte, c'est quoi? C'est la vision céleste, le trône céleste, où il y a des tonnerres, du vent, du bruit. Et chaque fois vous passez par là, pour passer dans le nouveau septennaire. Comme dans un jeu vidéo. Troisième septennaire. Le deuxième, c'est le trône céleste et les 7 trompettes. Troisième septennaire, c'est le temple céleste, de nouveau la porte qui s'ouvre. Et on passe à un nouveau septennaire, les 7 visions ou signes. Si vous regardez le texte, lisez et vous verrez, je vis. Puis vous avez une vision ou un signe. Puis de nouveau, je vis. Deuxième vision, deuxième signe, etc. 7 fois. Dans le texte original en grec en particulier, c'est très frappant. Troisième, par le cinquième septenaire, le temple céleste qui s'ouvre, de nouveau, la porte. Et vous avez les sept coupes qui sont déversées, les coupes de la colère de Dieu. Sixième septenaire, l'un des sept anges auprès de Jean, il y a beaucoup de sept, hein. Le chiffre, le nombre de Dieu, le nombre de la perfection. L'un des sept anges auprès de Jean, et vous avez les sept paroles sur Babylone. Babylone qui est détruite, qui est jugée. Septième septenaire, vous avez les paroles dans le ciel, de nouveau la porte, et les sept visions finales. Je vis, je vis, je vis, je vis. Et à la fin de cela, vous avez la conclusion, avec la vision de la Nouvelle Jérusalem, etc., qui descend du ciel. Bon, ça c'est la structure. Alors je vais dire les choses. Quelqu'un qui aborde l'Apocalypse simplement en disant « Ah, moi je pense que ça c'est ça, puis ça c'est ça, et puis ça c'est tel roi, et puis ça c'est Napoléon, et ça c'est Hitler. Et... » Non, il faut respecter la structure. Qu'est-ce que Jean veut dire? Il organise, conduit par l'Esprit de Dieu. Il a vu, mais il a travaillé aussi. Hein. Il a travaillé quand il a écrit tout ça, avec toutes les réminiscences de l'Ancien Testament. Et son livre est organisé. Et maintenant, il faut prendre la route. Et on va découvrir. Le septenaire des sept églises. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, en exil, parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où il est ressuscité, ce sera demain. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces sept églises. Éphèse, ça c'est la route. Hein. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Elle est en vie, voici ce que je vis. Il voit le Fils de l'homme. Une vision extraordinaire. Un être humain avec une épée dans la bouche. Bon, si vous connaissez la Bible, ça c'est Ésaïe. Hein. Une épée dans la bouche. Il a les cheveux blancs, comme Dieu dans Daniel 7, l'ancien des jours, qui a les cheveux blancs, comme la laine. Habillé de la tunique du sacrificateur et Jean qui l'adore. Et il est au milieu des sept chandeliers, les sept églises. Jésus-Christ se tient au milieu de son église. Aujourd'hui, voici ce qui est. Il est là. Lui, le Seigneur, écrit aux sept églises. Alors, c'est cette église, c'est bien sûr cette église. Mais je pense que si l'on prend ce chiffre 7 comme ce chiffre de la globalité, ça veut dire c'est le Seigneur qui dit « Je suis au milieu de toute mon église », pas seulement de ces sept églises. Il n'y a pas que l'église en Alsace hein, qui intéresse Jésus-Christ. Même à Nancy et même à Vendeuvre, il est présent. Il est au milieu de son église. Et la voix disait « Inscris dans un livre ce que tu vois, envoie-le à ces sept églises. » Et voilà les sept églises. Chaque église a, comme un ange au-dessus, vous savez, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est comme une sorte d'ange qui représente l'église auprès du Seigneur, là où il est actuellement. C'est une sorte de double de l'église. Et il écrit à l'église. Et voilà chaque église. Et vous savez que dans chaque lettre, Jésus... Attendez. Oui. Jésus soit encourage et félicite l'Église pour sa fidélité. Soit encourage et félicite l'Église, mais lui dit, mais en même temps, non, mais tu as parmi chez toi là des gens qui posent problème. Et puis, il y a une église, la Odyssée, entre autres, qui lui dit, non, tu as une bonne réputation, mais tu n'es ni froid, ni chaud, tu es tiède, etc. Chaque église, c'est la situation de l'église. Dans le monde. Enfin, dans le monde, à l'époque, il n'y avait pas tellement d'église. Hein. Jésus, dans son église, voilà ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit. Et nous devons y prendre garde. Cette lettre de l'Apocalypse nous concerne, nous. Voilà ce que Jésus-Christ nous écrit. Dans ce qu'on va voir, les sceaux qui vont suivre. Il nous écrit ça pour que nous prenions garde à notre situation. Ça vous concerne, vous, avant d'œuvre. Aussi. Deuxième septenaire. Je vais vite, hein. On pourra discuter après si vous avez des questions. Je vais vite. Le septenaire des sept sceaux. Jean est là, au pied du Seigneur, Jean l'apôtre, hein. Et tout à coup, il entend une voix. Une voix qui lui dit « Monte au ciel !» Et là, il va dans la réalité céleste. Ce qu'il y a en haut. Non plus les églises qui sont sur terre, au milieu desquelles est présent le Fils de l'homme, mais il est au ciel. Et que voit-il ? Alors, vous avez d'abord un témoin. Alors ça, je trouve ça très sympathique. Tous les grands panneaux, vous savez, les grands panneaux, formés chacun de 14 panneaux, les panneaux sont séparés par des colonnes, vous voyez, hein, ces panneaux verticaux. Eh bien, c'est Jean, l'apôtre, qui est dans sa petite cahute, là, enfin sa petite cathédrale, enfin sa petite, enfin pas sa cathédrale, sa chapelle, et il prend des notes, il prend ce qu'il voit, vous voyez, et voilà. Et vous allez le voir régulièrement, après, entre chaque septenaire, en train d'être là et de regarder ce qui se passe. Et voilà. Après cela, je vis, lui Jean, l'apôtre, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début, qui résonnait comme une trompette, me dit, monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Voilà ce qu'il voit. Une vision fantastique. Il voit d'abord, il y a des anges, et puis il y a 24 vieillards, là où il voit d'abord, et puis 24 vieillards, vous voyez, 6, 12, 18, 24, 24 vieillards, couronnés, qui sont autour de quelque chose, là, 24 vieillards, 24, 12, plus 12, les représentants de l'ancienne alliance, les représentants de la nouvelle alliance. 24 vieillards qui sont là. Et puis ils s'avancent. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Oh, quatre êtres étranges. Des chérubins. Qui représentent, alors, une tête de lion, une tête de taureau, une tête d'homme et une tête d'aigle. Alors, comment comprendre ? Alors, certains pensent que ce sont des êtres célestes, des anges spéciaux. Bon, je ne suis pas du tout convaincu, parce que dans Ézéchiel, on les retrouve, mais là, c'est chaque chérubin qui a les quatre têtes. Là, c'est quatre chérubins, chacun avec une tête. Donc, c'est des êtres un peu composites. Je pense que ce sont des êtres qui symbolisent la création qui est autour de Dieu. Ils représentent comme la création que Dieu a faite, qui est là. Les 24 vieillards qui représentent l'alliance, les alliances de Dieu, la création qui est là, et tout à coup j'en vois le trône. Et sur le trône, l'ancien des jours, Dieu lui-même. Un trône, avec une mer bleue devant, le saphir, le ou de mer, de lapis, lazuli, et le trône, Dieu qui est là. Et les sept esprits de Dieu, vous voyez là les... Derrière Dieu, là, derrière la tête, il y a sept esprits. C'est de nouveau, c'est pas qu'il y a sept Saint-Esprits, mais ça représente le Saint-Esprit, cette lumière qui est envoyée par Dieu. Et Dieu, dans sa main, a un livre. Scellé. Vous voyez les sceaux, c'est fermé. Un livre scellé.
Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration et leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement, et ils déposent leur couronne devant le trône.
C'est saint Augustin, Augustin d'Hippone, comme vous voulez, qui disait « Dieu donne ce qu'il ordonne et il couronne ce qu'il donne. » Toutes nos couronnes sont l'expression de ce que Dieu nous donne. Ces chefs d'alliance des deux alliances donnent leur couronne à Dieu et on adore. Et Dieu est là. Il tient le livre.
Mais il est encore scellé là.
Maintenant il est ouvert, mais la Bible dit qu'il est scellé.
Alors je vis, dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé des sept sceaux.
Alors là, on le voit ouvert, mais en fait, il est scellé. Dans sa tapisserie, hein. Bon.
Il était scellé des sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?»
Alors, qu'est-ce que c'est ces sceaux? Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est le livre de l'histoire, du plan de la rédemption de Dieu. Là-dedans est écrit tout ce que Dieu veut faire dans l'histoire et va faire pour sauver son peuple, réunir son peuple.
Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire.
Comment tous ces décrets de Dieu inscrits dans le livre, toutes ces décisions qu'il a prises, comment tout le plan de la rédemption va-t-il pouvoir s'accomplir?
Alors, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards
un agneau
qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Égorgé, sacrifié.
On égorgeait les agneaux, on faisait couler le sang sur les cornes de l'autel.
Égorgé, mais debout.
Crucifié, mais ressuscité. Un agneau
qui était là. Il avait sept cornes.
Les cornes, c'est le symbole de la puissance dans l'Ancien Testament. Il y en a sept, il a toute puissance.
Il a sept cornes, sept yeux.
Il voit tout. Il peut tout. Il voit tout, omniscient.
Qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre? L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône.
Imaginez ce que ça veut dire. Il y a 2000 ans, sur le trône même de Dieu, s'est assis un homme. Et depuis lors, lorsque nous prions Dieu, c'est un homme aussi qui m'écoute. Il y a 2000 ans, est monté au ciel un agneau, pleinement Dieu, pleinement homme, en une seule personne, mais sans confusion de nature. Et sur le trône de Dieu siège un homme ressuscité qui avait été crucifié. C'est cela que vous dites quand vous dites « Je crois en la résurrection. Je crois qu'il est monté au ciel, il s'est assis à la, il est mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. » Quand vous récitez le symbole des apôtres, le credo, c'est ça que vous dites. Un homme s'est assis sur le trône de Dieu, et cet homme a reçu de Dieu l'autorité, à cause de ce qu'il a fait, d'ouvrir les sceaux. Il va ouvrir chacun des sceaux du plan secret de Dieu, de ce que Dieu a décidé pour nous libérer. Premier sceau. Je vais assez vite. C'est superbe, hein, c'est vraiment cette tapisserie, c'est fantastique. Hein, c'est au moins aussi grand que ça, hein, quand vous allez le voir. Premier sceau, c'est le cheval blanc. C'est celui qui conquiert. L'histoire va être marquée. Elle a été, elle sera marquée par tous ces efforts de colonisation, de conquête, de conquérant. Ah, je vois M. Poutine. Ça aurait pu être Napoléon. Ou d'autres. Cette volonté des hommes, la terre, est livrée à ça. Depuis 2000 ans. Quand la nuit ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième me dire, viens, un autre cheval sorti. Alors il n'y a pas de deuxième sceau parce que le panneau est perdu. Il n'y a pas d'image. Un cheval sorti était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix. La guerre. La guerre va marquer l'histoire. Oui. Jésus règne. J'entends les cantiques, on le répète. Alors maintenant, c'est plus des cantiques dans nos églises, ce sont des chants. Bon, alors on chante. On va prendre un chant. On va chanter un cantique. Mais bon, on prend un chant et on dit « Jésus règne !» Oui, mais nous ne voyons pas encore qu'il règne. Il ouvre les sceaux. Mais ici-bas, sur la terre, il y a la guerre, il y a la conquête. Le troisième sceau, le cheval noir et la famine. La famine. Quatrième sceau, le cheval blême et la mort. Peut-être échapperons-nous à une conquête. Peut-être échapperons-nous à la guerre. Peut-être échapperons-nous à la famine. Mais une chose qui est sûre, même si vous êtes chrétien, vous n'échapperez pas à la mort, à moins que Jésus ne vienne. C'est la réalité d'ici-bas. Mais, cinquième sceau, une vision céleste. Les âmes des martyrs sous l'autel céleste. J'en vois tout à coup dans le ciel, dans le temple céleste, sous l'autel, les âmes de ceux qui sont morts, qui crient « Seigneur, jusque à quand tarderas-tu avant de nous rendre justice ?» Nous qui avons été tués à cause de ton nom ici-bas. Le cri de l'Église et de ceux qui sont morts déjà, qui s'expriment devant le Seigneur, qui ouvre les sceaux. Ça ne sera pas toujours comme ça, avec la famine, avec la guerre, la conquête et la mort. Le sixième sceau. Ah, il n'y a pas de panneau. Puis je vis la nuit ouvrir le sixième sceau, il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang, les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits d'un figuier, secoué par un gros coup de vent, le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs, les militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes, et parmi les rochers et les montagnes, ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. » Car le jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister ? Chaque septenaire va du début, de partir de l'ascension, jusqu'à la fin de l'histoire. Le jugement vient. Ce ne sera pas toujours comme ça. Un jour, Dieu jugera. C'est vrai que Dieu nous aime. Et c'est vrai que Dieu est patient. C'est vrai que Dieu retient sa colère. C'est vrai que c'est un Dieu d'amour. Mais c'est aussi un Dieu juste. Il faut le dire. Le mal n'aura pas toujours le dernier mot, Monsieur Macron. Ou qui que ce soit d'autre. Un jour, ça changera.
Le sixième saut. Toujours le sixième saut. Ah, fantastique. Après cela, je vous ne filmance.
Et Jean. Jean était là au ciel. Il y avait les 24 vieillards. Il y avait les quatre chérubins, ces quatre êtres. Il y avait Dieu sur le trône, il y avait l'agneau avec l'esprit. Et tout à coup, il voit une foule qui arrive. Une foule au ciel. Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Vous savez, le ciel a une histoire. Ce n'est pas que sur la terre qu'il y a l'histoire. Au ciel, dans la présence de l'homme, Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, il y a une histoire. L'année dernière, ma mère est allée le rejoindre. Il y a une histoire au ciel. Mon père, quelques années auparavant, 101 ans chacun, sont morts à 2-3 ans de distance, 2 ans je crois de distance. Ils sont allés les rejoindre. Le ciel a une histoire, la voilà. C'est fantastique. Ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Branches de palmier, la fête du tabernacle, vous savez, c'est les juifs qui faisaient ça. Ils venaient au temple avec des palmiers, l'Exode. Ils se rappelaient de l'Exode, et là, ils viennent enfin dans Canaan. Ah oui, ils viennent. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Ça, c'est déjà au ciel. Pas encore sur la terre. Mais c'est au ciel.
Quand l'agneau ouvre le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure.
Silence. Un silence.
Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, sept trompettes leur furent données.
Un silence qui permet de passer à la nouvelle porte.
Et voici le septenaire des sept trompettes. Ils reçoivent dans le ciel les sept trompettes. Un autre ange vint se placer sur l'autel,
le temple céleste, la porte.
Il portait un encensoir d'or. On lui remit les nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or, devant le trône, avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu.
C'est fantastique. Pendant ce temps, cette demi-heure de silence, quand on passe, là on passe à l'autre septenaire, qu'est-ce qui se passe? Dans le temple céleste, on offre les prières que l'on adresse à Dieu. Ici-bas. Vous savez, j'ai parfois eu à côtoyer la maladie et la mort d'assez près, à travers de proches, je me suis toujours demandé, je prie pour, par exemple, la guérison de quelqu'un. Alors, on se dit, mais est-ce que tu as le droit? Et puis en plus, si la personne meurt, tu te dis, mais qu'est-ce que... J'ai demandé à Dieu d'intervenir, et il n'est pas intervenu. Mais attends, non. Les prières... Elles montent au ciel et elles sont offertes à Dieu. Un jour, Dieu va les exaucer lorsque nous ressusciterons. Toutes nos prières pour la guérison seront exaucées un jour, lorsque Dieu, Jésus, reviendra. Les prières sont conservées au ciel. Et c'est au travers de ces prières que se déploie l'histoire de Dieu, l'histoire de la rédemption. C'est fantastique.
L'ange prit l'encensoir, le répandit, le remplit de braise ardente. Il purifie les prières. et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix. C'est la porte. Hein. Et voilà, en réponse à la prière, Dieu qui va agir. Alors les sept anges qui tenaient les sept trompettes s'apprêtèrent à sonner. Ils sonnent, bien sûr, en vertu de la volonté de Dieu, mais c'est aussi en réponse à nos prières. Première trompette, la grêle et le feu. Alors là, il n'est plus question de la vie humaine, il est aussi question de la vie humaine, mais il est question de choses, de jugements qui vont parsemer, qui vont parcourir l'histoire. Ce n'est pas la guerre, la famine qui tue des hommes et des femmes. Ce n'est pas la conquête, ce n'est pas la mort. Mais c'est tous ces jugements qui rappellent ce qui s'est passé à l'époque de Moïse, lors de la sortie d'Égypte. Et vous allez avoir un septennaire rempli de ces jugements. La grêle et le feu, ça rappelle un peu l'Égypte. Vous avez la mer comme du sang, le Nil comme du sang, mais là c'est les mers qui sont remplies de sang, imbuvables. Crise écologique, certainement, est un jugement de Dieu, certainement, sur notre façon de vivre. La mer comme du sang, l'eau transformée en absinthe, on ne peut même plus boire l'eau. C'est la création elle-même qui souffre, qui est soumise à la vanité, dit l'apôtre Paul, et qui souffre sous le jugement de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, elle a été soumise à la vanité, la création tout entière. Non, de son gré, mais à cause de celui qui a soumise Dieu, à cause de la chute, agit non seulement en permettant que certains se convertissent, mais aussi par ses jugements. Je fais une parenthèse. J'entends souvent des chrétiens évangéliques qui prient pour le réveil. Mais j'ai souvent l'impression qu'ils pensent que la seule façon que Dieu a d'agir dans ce monde, c'est le réveil. Mais Dieu agit aussi par ses jugements. Seigneur, ne permet pas que ce monde continue comme ça, c'est pas possible. Interviens dans notre histoire. Et Dieu n'intervient pas seulement en convertissant des gens, mais aussi par le jugement. Et c'est ça que nous avons là. Quatrième trompette, les ténèbres. Moïse. Ça rappelle, hein. Cinquième trompette, les sauterelles. Ah, ça aussi, ça rappelle Moïse. Mais alors là, c'est les sauterelles démoniaques. Elles viennent du puits de l'abîme. L'abîme, mais vous voyez, elles sont terribles, ces sauterelles, là, qui viennent derrière, là. C'est des sauterelles malveillantes. Dans les coulisses de l'histoire, il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas. Mais ça se passe. Sixième trompette, l'armée démoniaque. Alors là, ça devient de plus en plus précis. Regardez la tête des chevaux qui ont une tête de lion. Là. Toutes ces réalités qui se jouent dans les coulisses de l'histoire. Le mystère du mal est à l'œuvre. Ça ne savons pas comment, ça ne savons pas qui, ça. Mais bon. Et quand je vois le monde autour de moi, je me dis, mais bon, le mystère du mal, on a quand même inscrit dans la Constitution française l'acceptation de 240 000 avortements par an. 240 000, chiffre officiel, par an. C'est des choses qui bouleversent. Mais bon. Sixième trompette. Mais il n'y a pas que les jugements. Dieu agit comme ça, oui, dans notre monde. Mais il n'y a pas que les jugements. Il y a aussi l'ange puissant le livre. Ensuite, je vis un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel auréolé sa tête. Ou la nuée, c'est... Quand il y a la nuée, il y a Dieu qui est dans la nuée dans l'Ancien Testament. Moïse entre dans la nuée et il voit Dieu. La nuée, l'arc-en-ciel, signe de la... Cet ange est comme une sorte de double de Jésus-Christ, je ne sais pas comment le comprendre. Et qu'est-ce qu'il fait cet ange? Son visage rayonnait comme le soleil.
Ça encore, c'est une image qui renvoie à Dieu dans l'Ancien Testament. Et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. C'est comme le Fils de l'homme dans le premier chapitre. Les jambes étaient des colonnes de feu. Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il se mit à crier d'une voix forte, comme rugit un lion. Je m'approchai donc de l'ange en le priant de me remettre le petit livre. « Tiens, me dit-il, mange-le, il te remplira l'estomac d'amertume, mais dans ta bouche il sera comme le miel. » Je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Dans ma bouche il fut doux comme du miel, l'évangile. Mais après avoir mangé, mon estomac fut rempli d'amertume. L'évangile est aussi parole de jugement pour ceux qui n'y croient pas. Alors on me dit, tu dois encore prophétiser, c'est-à-dire parler en mon nom, concernant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Dans ce monde qui est soumis au jugement de par la souveraineté, l'œuvre souveraine de Dieu, eh bien, il y a aussi l'évangile. Sixième trompette, les deux témoins. Alors, je vois l'heure, il est déjà 6 heures ? Bon, on est là jusqu'à 9 heures, hein, mais bon, je vais aller un peu plus vite, hein, c'est pas grave. Sixième trompette, les deux témoins. Alors, je me confiais à mes deux témoins la mission de prophétiser habillés de vêtements de deuil. Ces deux témoins, je vous dis comment je comprends, c'est Élie et Moïse, qui représentent, quand on voit le texte, on voit que derrière l'un il y a Élie, derrière l'autre il y a... C'est comme, disons, les deux grandes figures prophétiques de l'Ancien Testament. Celui du début, Moïse, Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, qui a fait tous ces miracles. C'est l'un des rares qui a fait tous ces miracles. Hein. Très peu de prophètes ont fait des miracles. Élie, Élisée. Eh bien, il représente l'Église qui prophétise, qui témoigne, qui proclame. Ces témoins que représentent ces deux témoins, ces témoins, cette Église, ils sont mis à mort. La mort des deux témoins. Et ces deux témoins ressuscitent. Oui, l'histoire de l'Église est une histoire de martyrs. Il y a certainement plus de chrétiens aujourd'hui mis à mort qu'il n'a jamais eu pendant les générations passées. Aujourd'hui, dans bien des pays. Dans bien des pays, vous êtes chrétien au prix de votre vie. Vous savez quelle est l'Église qui grandit aujourd'hui le plus ? Statistiquement, dans le monde. Oui, mais où ? Non. En Iran. En Iran. L'Église qui grandit statistiquement, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est porte ouverte. L'Église qui grandit aujourd'hui le plus dans le monde, c'est en Iran. Mais c'est au prix de la vie. Souvent. Mais un jour, l'Église ressuscitera. Ce témoin de Dieu va vers la vie, malgré la mort. La mort n'aura pas le dernier mot. Et vous avez tout de suite après l'annonce de la venue du royaume, le septième ange sonna de la trompette et des voix retentir, le royaume de Dieu, le monde est passé maintenant dans la main de notre Seigneur et notre Christ, il régnera éternellement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, c'est trois choses. Que cela soit tôt sur la terre, comme c'est déjà maintenant le cas au ciel. C'est pas encore, mais c'est notre prière. Le royaume de Dieu va venir. Le septenaire des sept visions, sept signes. Vous me donnez encore quelques minutes ? Ça va ? Non mais dites, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Quelques minutes, je ne vais pas tout dire, mais là, il y a quand même des choses intéressantes. Après, vous pourrez continuer vous-même. C'est le travail, c'est à vous de travailler et de lire. Prenez la Bible du semeur et prenez la Bible du semeur d'études. Vous avez là le livre de l'Apocalypse mis en forme avec les septenaires. Un collègue a travaillé beaucoup là-dessus, qui a écrit un très bon commentaire, Sylvain Romerowski, un super commentaire sur l'Apocalypse que je vous encourage à lire. Vraiment très bien fait. Alors s'ouvrit le temple de Dieu, la porte qui s'ouvre, un nouveau septenaire qui est dans le ciel, le coffre de son alliance, il parut lieu des éclairs, vous voyez toujours les mêmes mots, hein. Des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une voix forte de la grêle. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. Ah, fantastique. Je vis une femme. Elle avait un signe, hein, ça c'est, je vis, voilà. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher, ses douleurs lui arrachaient des cris. Une femme, la voilà, prête à accoucher. Et là, vous avez Jean qui regarde dans sa petite chapelle, hein, il regarde toujours ce qui se passe. Vous avez donc la femme. Et cette femme, qui est prête d'accoucher, c'est qui ? C'est le peuple de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est présenté sous la métaphore, l'image de la femme. Israël est l'épouse de Dieu. L'Église est l'épouse de Dieu. Cette femme, ce peuple de Dieu, enfante. C'est tout le peuple de l'Ancien Testament qui se concentre dans Marie, peuple de Dieu, et qui enfante le Messie. Alors, un signe grandiose... Attends, c'est une femme, pardon. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon en bas. Énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Le dragon singe le Seigneur. Il fait comme s'il était, mais il ne l'est pas. Chacune de ses têtes portait un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Peut-être des anges. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant d'un quel horrible monde. C'est comme Hérode qui veut tuer l'enfant. Qui massacre les enfants de Bethléem. Le peuple de Dieu donne naissance au Messie. Et immédiatement, le dragon réagit. Le dragon qui est le serpent ancien. Or, la femme enfanta un fils, un garçon, qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, le Messie. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert, comme dans l'Ancien Testament. Le pharaon veut tuer le peuple. Alors, il veut d'abord tuer le Messie, mais le Messie est enlevé. Et alors, il veut attaquer le peuple. Il veut détruire le peuple. Où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours. Je ne rentre pas dans le détail de ces calculs. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel, et vous avez Michel qui combat le dragon. Et le dragon est précipité sur la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, alors, vous savez, parfois j'ai l'impression que certains lisent l'Évangile comme si c'était du cinéma. Et ne se rendent pas compte que c'est l'histoire réelle. Que s'est-il passé lorsque Jésus est monté au ciel et que l'homme, pleinement Dieu, s'est assis sur le trône de Dieu? Eh bien, vous avez l'accusateur, celui qui rappelle à Dieu que cet homme-là, Job, là, qu'est-ce qu'il est, est-ce que tu crois qu'il t'aime ? L'accusateur, ce jour-là, quand il est venu auprès de Dieu, qu'est-ce qu'il a vu sur le trône ? L'agneau crucifié, mais ressuscité. Et à partir de ce jour-là, il n'a plus pu accuser. Il était jeté sur la terre, l'accusateur de nos frères. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui, l'accusateur des frères. Le diable ne peut plus accuser ceux qui appartiennent à Dieu parce que l'agneau est sur le trône et tait toutes les accusations puisqu'il a été puni à notre place. Alors il est précipité sur la terre, il attaque la femme et la femme est protégée comme dans l'Ancien Testament, par une sorte de mer, l'eau, comme les
juifs qui ont traversé la mer Rouge. Elle ouvrit, donc, mais la terre vint au secours de la femme, elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule.
La mer n'a pas pu les détruire, ils sont passés, elle est protégée.
Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste des enfants.
Mais oui, les martyrs et la guerre du diable contre l'Église demeurera jusqu'à la fin. Même, parce qu'il est déchaîné, ici-bas, en haut.
Alors, deuxième vision, la bête qui monte de la mer.
La mer des peuples.
Alors, le dragon va donner son pouvoir, le dragon, qui singe Dieu, va donner son pouvoir à la bête qui monte de la mer. C'est une sorte de trinité à la bête qui monte de la mer, à son Christ, qui se présente d'ailleurs. Hein. Il portait 10 cornes, 10 diadèmes, cette bête-là. Il va donner le pouvoir à ce... Et alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Je vous dis, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. C'est comme une bête qui rassemble toutes les caractéristiques des persécuteurs du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Babylone. Après les Mèdes et les Perses, les Grecs. Chacun avait une forme, avait se présenté sous une forme de bête. Eh bien, ces royaumes bestiaux se concentrent dans cette bête-là, qui, depuis la création de l'Église jusqu'à la fin des temps, cherchera à détruire l'Église de diverses manières et dans divers endroits. Et de manière de plus en plus forte, jusqu'à peut-être devenir une puissance mondiale. On ne sait pas très bien comment comprendre, je ne rentre pas dans le détail. Et cette trinité divine, il y a une troisième personne. Il n'y a pas seulement le dragon qui singe Dieu, il n'y a pas seulement la bête qui sort de la mer qui singe le Christ qui dirige les nations. Cette bête qui sort de la mer veut diriger les nations, le pouvoir dans une forme politique. Mais il y a aussi la bête qui monte de la terre, qui est le porte-parole de la bête qui sort de la mer. C'est le Saint-Esprit. Elle singe le Saint-Esprit. Et elle fait tout pour que les gens adorent la bête qui sort de la mer. Elle est comme l'Esprit qui veut nous amener à Christ. C'est la bête qui veut nous amener à la bête pour qu'on adore le dragon. Une trinité satanique. Qui est derrière notre monde, derrière les choses d'ici? Il y a un monde invisible qui existe. Il ne faut pas s'en mêler. Ce n'est pas à nous de régler les choses, là. Hein. Moi, j'entends parfois des chrétiens qui lient des puissances. Et pour qui ils se prennent? J'étais à une réunion dans une église pas du tout charismatique ou quoi que ce soit, hein. Une église tout à fait traditionnelle. Un des anciens monte en chair et dit « Nous te prions, Seigneur, nous lions les puissances qui pourraient être présentes. » Qui est-il? Même Michel n'osait pas insulter le diable. Et il disait que le diable te réprime lorsqu'il se disputait le corps de Moïse, dit l'épître de Jude, de Pierre, non, de Jude. Soyons humbles, modestes, mais nous ne savons pas ce qui se passe. Mais il y a des choses qui se passent. Alors, je suis obligé malheureusement d'aller beaucoup plus vite. Ah non, ça, vous avez l'agneau, les 144 000. La quatrième vision, 144 000, 12 fois 12, multiplié par 10 fois 10 fois 10. Les deux alliances multipliées par la trinité du chiffre complet, la plénitude du 10. Bon, l'ensemble du peuple de Dieu. Vous avez la quatrième vision. La cinquième vision, la proclamation faite par trois anges, je n'y viens pas. Mais j'aimerais peut-être juste, parce que l'heure est vraiment passée, 6h10, hein, juste finir par ça. Et lisez après l'Apocalypse. Reprenez-la. Voyez ces septénaires. Voyez comment ça fonctionne. Essayez de comprendre. Chaque fois, chaque septénaire va du début à la fin. Et ça s'ajoute les uns aux autres. Et chaque fois, c'est un plan différent.
Ça nous fait comprendre les choses. Ça va parler de Babylone, la destruction de Babylone. Babylone, ce monde politique, économique, religieux qui se construit avec toute sa culture babylonienne dans laquelle les hommes sont pris. Et à cela s'oppose la cité de Dieu, la Jérusalem. La Jérusalem qui vient. Alors je vais m'arrêter là pour dire une chose. Comment se finit l'Apocalypse ? L'Apocalypse se finit par la vision, après vous avez 9 visions, 7 visions à la fin, dans le 7e septennaire, et vous avez la vision de la Jérusalem qui descend du ciel. Alors je ne sais pas quelle est votre espérance. Alors je l'ai dit, au ciel, je crois qu'il y a ma mère, mon père, qui sont dans la présence de Jésus-Christ sans leur corps. Mais quelle est votre espérance ultime ? Qu'attendez-vous ? Est-ce que vous attendez de partir au ciel ? Ou est-ce que vous attendez le moment où le ciel va descendre sur la terre ? Mon espérance n'est pas de partir au ciel. Mon espérance, c'est qu'un jour, la nouvelle Jérusalem, là où il y a Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, là où il y a mon père, là où il y a ma mère, là où il y a mon frère qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mon espérance, c'est que tout ça, toute cette Jérusalem céleste et ce temple céleste descendent enfin un jour sur la terre et glorifient la terre. Transforme la terre par une sorte de résurrection de la terre elle-même. C'est ça l'espérance chrétienne. C'est ça que vous dites quand vous dites le credo. Je crois en la résurrection du corps. C'est la vie humaine que Dieu va changer. C'est la création que Dieu va transformer. On ne va pas la fuir. On ne va pas partir. Il ne va pas tout casser. Il l'a créée. Et ça fait des milliers d'années que Dieu fait tout pour sauver cette création. Et Jésus est venu pour cela. Pour que notre création soit enfin libérée de la mort et du mal. Et soit glorifiée. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Hein. Un jour, je reçois une lettre. Vous êtes témoin de Jéhovah. Pas du tout. Non, c'est pas on va reprendre la vie comme un peu maintenant. Non, c'est Jésus-Christ passé au travers des murs, il y a des changements glorieux qui vont avoir lieu. Mais c'est cette création qui va changer. C'est l'économie qui va être totalement transformée. Je sais pas comment. Et même dans cette nouvelle Jérusalem, il est dit que les trésors des nations, des païens, entreront dans la nouvelle Jérusalem. Tout ce que même les gens les plus mauvais qui soient, on fait de bien. Mozart, il a écrit des choses pas mal. Moi, j'aime bien l'impressionnisme du peintre. C'est quand même pas mal. Mais tout ça, c'est Dieu qui a permis que ça existe. Et bien, tout ce qui est bien va être purifié. Les armes, les épées. Ah ben, c'est pas bien une épée. Mais il est dit qu'il fera des épées, des charrues. Ça ne sera pas perdu. Le métal créé par Dieu va être utilisé pour le bien. Tout va être changé, transformé, racheté, libéré. Mais c'est ça que j'attends. Et c'est ça que dit l'Apocalypse. La nouvelle Jérusalem va venir ici-bas. Et ça, c'est glorieux. C'est notre espérance chrétienne. Le païen, lui, il croit qu'il va partir, que les ancêtres sont quelque part. Ça, tous les païens le croient. À l'époque, tous les Romains croyaient ça, qu'il y avait les Champs-Élysées, où il y avait les âmes qui vivotaient. Mais ça, ce n'est pas mon espérance, ça, c'est l'espérance païenne. Mon espérance, c'est la résurrection de mon corps. C'est de vivre dans une création, cette création libérée, transformée. Quand la nouvelle Jérusalem va venir et va la glorifier. Je m'arrête là.
On a encore dû voir beaucoup de choses.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Merci beaucoup pour cet enseignement que vous avez passé sur l'Apocalypse. J'avais une question sur une partie que vous n'avez pas abordée, les sept tonnerres qui n'ont pas été expliqués, je crois que c'est au chapitre 12 ou 13, je ne sais plus très bien. Je sais qu'il y a une partie où il y a les sept tonnerres avant le petit livre. Donc il y a les sept tonnerres de Dieu en fait, que l'apôtre Jean a entendu. Mais là-bas, il est écrit que en fait, l'ange avec qui il était lui a demandé de ne pas écrire ce que les sept tonnerres ont dit. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous pourriez interpréter ça, qu'est-ce qu'on pourrait en comprendre. Peut-être qu'il y a eu ces sept tonnerres, mais qu'on n'a pas eu l'interprétation. Ou bien que ce que Jean a vu, l'ange lui a demandé de ne pas l'écrire.
Eh bien, je serai fidèle à ce que dit l'ange. Ce n'est pas expliqué, ce sont les sept tonnerres, et ce n'est pas nous qui pouvons le savoir, puisque Jean lui-même, il lui a été dit de ne pas le dire. Donc on ne peut pas dire grand-chose. Alors, simplement, ces sept tonnerres sont certainement de nouveau une expression du jugement de Dieu, ou disons de la manifestation de Dieu. Les tonnerres dans l'Apocalypse apparaissent chaque fois dans la vision céleste qui introduit les sept tonnerres. Il y a eu des éclairs de voix, des tonnerres. Donc voilà. Maintenant, ce que c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les sept malheurs, les sept tonnerres, c'est un peu difficile. Non. Ne soyons pas plus sages que Jean lui-même.
D'autres questions ?
C'est quand même étonnant que tu nous aies dit que tu n'aurais pas le droit de lier les choses, puisque dans Matthieu, il est dit tout ce que vous lirez sur terre aura été lié dans les cieux, et tout ce que vous lirez sur terre aura été lié dans les cieux. Jésus lui-même, il lit des esprits et délie des esprits. Pourquoi nous, ayant Christ, nous ne pouvons pas faire la même chose ?
Alors, c'était une remarque que je faisais en passant. Hein. Il faudrait donc en parler beaucoup plus longuement. Alors, premièrement, vous citez Matthieu 18. Il faut le lire dans son contexte. Le très grand danger, c'est toujours de sortir un texte du contexte et puis de lui faire dire ce qu'on aimerait qu'on dise. Alors, il est dit quoi ? Si ton frère a péché, va reprendre le seul à seul, ton frère. S'il se repent, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux ou trois témoins. Et s'il n'écoute pas les témoins, dis-le à l'Église. Bien. Car tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, ça ne concerne à coup sûr pas des démons, des esprits, ça concerne la situation du contexte dans lequel c'est dit, c'est-à-dire le problème du pardon ou du refus de la repentance. Alors comment le comprendre ? Ces formules, liées, déliées, se trouvent dans la littérature rabbinique de l'époque, de même qu'à Qumran, pour dire quoi ? Pour dire deux choses. Soit pour définir ce qui est juste et ce qui est injuste, on est lié par ce qui est juste, ce qui est injuste, on délie. C'est les mots utilisés par les pharisiens, vous trouvez dans le Talmud. Ou alors, pour exclure de la communauté ou intégrer quelqu'un en fonction de ce que quelqu'un a fait de juste ou de pas juste. Alors, dans Matthieu 16, quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, tu seras Pierre, tout ce que tu liras sera lié hein, à Pierre. C'est-à-dire tout ce que tu définiras comme vérité sera vrai, ou ce qui ne sera pas vrai doctrinalement, si vous voulez, c'est les apôtres qui ont cette autorité doctrinale dans l'Église de définir ce qui est vrai et pas vrai, juste et pas juste. L'Église est construite sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est ce que dit Pierre dans Paul dans Éphésiens 2:20. Ça, c'est donc la définition de la doctrine juste et fausse. On lit et on délie. Dans Matthieu 18, Jésus ajoute quelque chose, c'est qu'il dit que c'est en fonction de cela qu'il faudra exclure ou ne pas exclure quelqu'un de la communauté. Si quelqu'un a péché d'une manière grave, au point de contrevenir, disons, de trahir l'Évangile, eh bien, il faut le considérer comme un païen et un publicain, et non plus comme un frère en Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas un païen et un publicain sur lequel il faut cracher. Jésus n'a jamais craché sur eux. Hein. Mais qu'il faut évangéliser. Nous devons le considérer comme n'étant plus chrétien. Et dans le contexte, ça ne peut à mes yeux que dire cela. Mais ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est beaucoup de commentaires. Alors j'aimerais juste encore relever, il y a une autre phrase qu'on lit toujours hors contexte. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et on dit ça, c'est pour l'église, ou pour des réunions de prière, ce genre de choses. Mais non, c'est dans le contexte. C'est, le texte dit « Car là où deux ou trois sont assemblés pour régler un problème, je suis au milieu d'eux. » Eh bien, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là pour régler un problème. En grec, c'est topragma. C'est exactement le même mot que dans 1 Corinthiens 5. Vous avez des problèmes entre vous, les Corinthiens. Eh bien, si vous réglez le problème par la repentance, eh bien, le pardon a lieu et je suis là, au milieu de vous. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, voilà, lié, délié. Bon. Moi, c'est comme ça que je comprends. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, les démons. Ah oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais on ne parle pas de la même chose. Là. Oui, il y a des gens qui peuvent être sous l'influence démoniaque. Et nous avons, au nom de l'Évangile, l'autorité de les chasser. Bien sûr. L'Évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, et par l'Évangile, l'œuvre du Saint-Esprit se fait et les démons partent. Et oui, alors, c'est l'expérience plus que séculaire de tous les missionnaires et aussi des gens en France. Hein. Il y a des fois, c'est pas tous les jours, hein, mais où, oui, on a affaire à quelque chose qui est incompréhensible. Et on annonce l'Évangile et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Bien. Et Jésus a eu l'autorité, oui, de chasser. Alors, je vous fais remarquer que pour les mêmes problèmes, par exemple pour des aveugles, ou des sourds et muets. Donc pour des symptômes identiques, Jésus n'a pas agi chaque fois de la même manière. À certains moments, il imposait les mains et priait pour le malade. Il était guéri. Mais quand il y avait un démon, il n'impose jamais les mains. Il ne s'associe jamais à l'œuvre des démons. Mais il ordonne. Et vous avez des sourds, muets ou des aveugles qui sont guéris. Guéris, qui sont libérés de démons, alors que d'autres sont libérés de maladies. Jésus faisait la différence. Et ça se passe encore aujourd'hui lors de l'annonce de l'Évangile. Mais c'est autre chose que de dire qu'on va lier les puissances dans les lieux célestes, que l'on va aller sur le mont de l'Himalaya pour prier, parce que c'est là que c'est le repère du diable. C'est la femme de Peter Wagner, l'un des grands pontes de la nouvelle réforme apostolique, de ceux qui soutiennent, par exemple, Bush en France, aux États-Unis, qui prient pour lui, qui lui ont posé les mains, qui vont en lui le nouveau Cyrus, etc. Oui, non, ça c'est autre chose. Nous n'avons pas à nous mêler de ce qui se passe dans les lieux célestes, derrière... non, nous, c'est la vie ici-bas, qui est notre domaine. Et les cas de possession existent. Oui, bien sûr. Non, pas du tout, mais lisez le texte. Oui, mais lisez le texte. Daniel n'a jamais prié, n'a jamais lié les puissances, s'est jamais adressé aux puissances célestes, ce genre de choses. Il a commencé à prier, mais c'est ce que nous faisons. Nous prions. Et nous savons qu'un jour même, le Seigneur reviendra en réponse à notre prière. Nous attendons le retour du Seigneur. Mais bien sûr que le Seigneur agit en réponse à notre prière. Mais ce n'est pas nous, et ce n'est pas Daniel qui a lié les puissances auxquelles Michel s'est opposé dans le ciel, le roi de Perse et tout ça, enfin le puissance de... Mais non, c'est en haut que ça se passait. Et c'est pas Daniel, c'est en réponse à la prière. Peut-être. Mais quel orgueil de se dire, moi je lis. Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça me semble grave. Mon frère était psychiatre. J'ai trouvé ça très intéressant. Un jour il me dit, Jacques écoute tous ces cantiques. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Il disait, mais ça, c'est de la volonté toute puissance. C'est pas de dire, Seigneur, nous te louons parce que tu es au ciel, tu es Dieu. Parce que tu règnes sur le trône. Te louons et nous te supplions de venir à notre secours. Ça, c'est autre chose. Mais cette incantation où, en fait, il faut même le chanter 15 fois, c'est plus efficace. Ça, c'est un peu de l'incantation et de la volonté de puissance qui s'exprime. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça. Et bien sûr, j'ai lu des dizaines de bouquins sur ces choses-là, mais bon, il faudrait bien sûr en parler beaucoup plus longtemps.
D'autres questions ? Derrière d'abord, après je viens à Armand.
Je voulais tout d'abord vous remercier pour cette belle conférence. Moi, je voulais intervenir dans le chapitre 13.
Oui.
À la dernière partie du chapitre, l'apôtre va dire « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Et en lisant le livre d'Apocalypse, j'ai compris qu'à chaque époque, il y a au moins une bête qui intervient. Et à l'époque des gens, on pourrait parler de Néron. Alors aujourd'hui, à notre époque, comment faire pour calculer le nombre de la bête et savoir c'est qui a l'influence sur notre époque actuelle?
Oui, alors, 666 d'abord. Est-ce que ce 666 renvoie... Bon, vous savez que les lettres en hébreu, en latin, etc., servaient de chiffres en même temps. Et donc certains font de la gématrie, c'est-à-dire qu'ils, au travers des mots, des lettres, ils essaient de retrouver des chiffres. Parfois, ils y calculent un peu savants. Bon. Je ne suis pas du tout convaincu. Alors pourquoi ? Parce que dans toute l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le dragon, on voit que la bête qui sort de la mer, on voit que la bête qui sort de la terre singe Dieu, son Christ et l'Esprit. En ayant dit diadème, sept cornes, etc. Tous ces chiffres sont des chiffres qui montrent cette singerie. Alors qu'est-ce que c'est 666 ? C'est un chiffre d'homme. Pourquoi ? Dit l'Apocalypse. C'est parce que ce n'est pas 777. 777, c'est le chiffre trinitaire. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 666, c'est presque la Trinité, mais c'est la Trinité humaine. C'est l'homme qui s'érige en Dieu, qui se veut Dieu. Alors, oui, aujourd'hui, où se trouve cela? Alors moi, j'ai une réponse simple et une réponse compliquée. Compliquée, c'est-à-dire, je ne sais pas, enfin bon, là, il faudrait rêver, mais simple. C'est qui à l'époque de Jean ? C'est les puissances qui gouvernent le monde. Et les puissances idolâtres. C'est l'Empire romain. Babylone, c'est Rome. C'est décrit cette colline et cette montagne. Babylone, c'est cette montagne. Babylone, c'est Rome à l'époque de Jean. Aujourd'hui, c'est qui ? Les puissances qui dirigent ce monde. Et qui créent un monde, une culture qui idolâtre l'homme. Une culture qui fait de l'économie le but ultime de la vie humaine. C'est qui ces puissances-là, ou cette puissance-là? Je ne crois pas qu'il y ait encore une puissance. Mais bon, on voit très bien de quoi on parle. Ce n'est pas une personne, c'est un système qu'incarne des personnes, peut-être. Mais nous vivons dans un système comme ça. Nous n'avons jamais été dans un système 666, aussi 666 qu'aujourd'hui, unifié dans le monde entier, avec une acculturation, c'est-à-dire une imitation de monde lointain. Regardez, le monde fonctionne de plus en plus de la même manière partout. Vous allez n'importe où, il y a Coca-Cola, il y a McDonald's, etc. Alors, je ne sais pas pour... mais c'est, je donne un exemple. Hein. Je donne un exemple. C'est un monde qui fonctionne comme ça. Et là, il y a du 666 en puissance. Oui, alors c'est bête. Je pense qu'Hitler était quelque chose, une apparition de cette bête-là. Certains diraient Napoléon aussi, hein, bon, etc. Mais oui, il y a rien. C'est une réalité qui constamment... Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle gonfle. Quand il y avait Hitler, bon, bah, je ne sais pas si vous venez d'Afrique, l'Afrique était peu concernée par ça. Bon, il était concerné parce que les soldats sont venus se battre chez nous pour libérer... bon, et ça, c'est remarquable. Mais, disons, ils étaient quand même peu concernés. L'Australie, bon, si, ils sont venus, mais bon, ils étaient loin. Bon, aujourd'hui, on est de plus en plus tous impliqués dans ce monde qui s'organise. Alors, ça peut encore durer 1000 ans, hein, je ne sais pas. Mais ça devient plus en plus bestial. Alors, c'est intéressant. Le Christ qui apparaît au début de l'Apocalypse, c'est qui ? C'est le Fils de l'homme. Jésus est un humain. La singerie, c'est un dragon ? C'est des bêtes. C'est bestial. Ben, ça, oui, ça, c'est... Et nous vivons dans un monde de plus en plus bestial.
Merci. Arnaud ?
Ma question sera sur trois noms. Antichrist, Grande Tribulation et ce que l'on appelle Millénium. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ? C'est très vaste, bien entendu, je sais.
Non, pas de problème, je réponds en 30 secondes. Alors, Antichrist. L'Antichrist, je pense que... là, je n'aurai pas d'hésitation. Je pense que l'Antichrist, c'est la manifestation ultime de la bête qui sort de qui monte de la mer. Qui sort de la mer. Avec l'apôtre Paul dit que un jour, l'homme de l'impiété va pas apparaître. Bon. Et que cet homme de l'impiété... Dieu va répondre que ce sera en fait aussi le fruit du jugement de Dieu, puisque Dieu va donner une puissance de séduction. Il faut répondre une puissance de séduction pour séduire ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dans 1 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Donc, oui, il y a plusieurs textes qui vont dans le même sens. Alors, je crois d'abord que c'est un système avant d'être une personne. Oui, quelque chose comme ça. Mais ça peut être un gouvernement. C'est au nom de la démocratie que, dans nos pays, on va maintenant organiser le suicide assisté. Hein, au nom de la démocratie. Donc, ça peut être un gouvernement light, hein, mais qui fait des choses... je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est un système qui peut-être se incarnera dans une personne. Je n'en sais rien. Mais je crois que ça va dans ce sens-là, oui. Et qu'il faut lire ces textes de Paul... de Jean, aussi dans 1 Jean et aussi dans l'Apocalypse, en les mettant ensemble. Alors, la grande tribulation. Alors, vous avez vu que mon approche, c'est pas une approche qui donne, je dirais, qui pense que toute l'Apocalypse, c'est à venir. Dès l'époque de Jean, l'Apocalypse se réalise. Et donc, lorsqu'il est question de la tribulation, de ceux qui viennent de la grande tribulation, il parle des chrétiens martyrs de son époque déjà. Et la grande tribulation, c'est quoi ? Ben, c'est cette époque qui va de la venue de Jésus-Christ, son ascension, jusqu'à son retour, où la terre, où l'Église est en période de tribulation. Nous sommes immigrants et résidents temporaires sur cette terre où nous sommes en tribulation. Et vous avez alors les chiffres symboliques des 40 jours, c'est comme Élie, la persécution, donc Élie qui souffre, c'est comme l'Exode pendant 40 ans. Et donc c'est une grande tribulation qui dure des milliers d'années, enfin 2000 ans déjà. Je ne pense pas que ça ait lieu, qu'il faut prendre ces chiffres de 3 mois et demi ou de 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est la moitié de 7. C'est la tribulation, justement. Nous allons vers le 7, le règne, le royaume éternel de Dieu qui va s'instaurer, et nous sommes actuellement dans les 3 ans et demi. Bon, voilà ma façon d'interpréter. Et le millénium, bon, le millénium, c'est la période pendant laquelle le Satan est lié, afin qu'il ne séduise plus les élus. Et je crois que c'est la période que nous vivons. Depuis la venue de Jésus-Christ, L'évangile est annoncé à toutes les nations du monde. La grande nouveauté qu'a instaurée la venue de Jésus-Christ, c'est que des hommes du monde entier ne sont plus séduits. Satan était lié afin, c'est pas pour qu'il n'y ait plus de guerre, hein, c'est afin qu'il ne séduise plus les nations, les païens. Et l'ouverture des païens, l'ouverture du royaume aux païens, c'est avec l'ascension de Jésus-Christ et le don de son esprit, Corneille, que cette ouverture s'est faite. Alors bien sûr, c'est une interprétation qui est l'interprétation courante de l'histoire de l'Église. Hein. Luther, Calvin, Augustin, enfin voilà, tous ces gens-là, c'est une interprétation que j'appelle amillénariste. Ce n'est pas un temps que nous attendons, mais c'est un camp dans lequel nous vivons. Mais bon, là, je reconnais qu'il faudrait que je m'explique beaucoup plus et vous demanderai à Jean-Haut de vous faire quelques semaines là-dessus, et alors, vous verrez.
J'étais un aussi au départ, après je commence à changer.
Ah bon, ben voilà, donc on ne serait peut-être pas de cet avis, donc du même avis. Voilà. Oui.
Alors, une dernière question, parce que le temps passe.
Oui. Je vous encourage à lire le commentaire de Sylvain Romanowski, hein, donc sur Apocalypse, où il aborde toutes ces questions et les détails, les discussions. C'est très serein comme discussion.
Alors j'ai la question, si ton frère ou ta soeur a un péché, reprend l'art, s'il ne reprend pas, il va à l'église, et après, d'après ce que je comprends, après on ne la considère plus comme une sœur en Christ, ou un frère. Alors ça veut dire qu'on l'abandonne, ça veut dire qu'on ne prête plus attention, ça veut dire quoi?
Non, alors justement, je disais avant que considéré comme un païen, un païen, un publicain, dans le texte, hein, mais qu'il soit pour vous comme des païens et des publicains. Alors que sont aux yeux de Jésus-Christ des païens et des publicains? Ben, c'est pas des gens sur lesquels qu'il faut mépriser. Ce sont des gens qu'il faut évangéliser. Mais ça veut dire qu'il faut ne plus les considérer comme membres du peuple de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais qu'il faut bien sûr toujours exhorter à se repentir et à se tourner vers Jésus-Christ. Enfin, oui. Mais d'une manière qui n'est plus la manière avec laquelle on parlerait à un chrétien. Et c'est grave. Vous savez, l'Église, je viens d'une assemblée générale là, dans mon Église, Église Perspective, l'Église, ce n'est pas une association cultuelle. L'association cultuelle, c'est l'habillage juridique de l'Église aujourd'hui. Mais l'Église, c'est autre chose. L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est la colonie de la Nouvelle Jérusalem sur cette terre. Et dire que quelqu'un n'en fait plus partie parce qu'il refuse de se repentir et à cause de ce qu'il a fait, et qui est grave. Prenez par exemple le cas d'inceste à Corinthe, hein, où Paul dit que tel esprit soit livré à Satan, c'est-à-dire soit jeté de l'Église, enfin, rejeté de l'Église. Bon. Eh bien, c'est un acte grave devant Dieu, parce que l'Église, ce n'est pas une association cultuelle. C'est le peuple de Dieu. Donc il faut toujours évangéliser, bien sûr. Pardon ? Oui. Ah oui ! Alors, non, alors attention, le contexte. Cette parabole ne parle pas de l'Église. Elle dit le champ, c'est le monde. Elle ne dit pas c'est l'Église du tout. C'est le monde. Et dans le monde, il y a des enfants de Dieu, le blé, et il y a deux livrets qui sont mélangés. Et nous n'avons pas à arracher de ce monde présent, c'est la société, nous n'avons pas à arracher livré, ce n'est pas notre rôle. Nous avons, un jour viendra le moment où Dieu fera la vendange, ou les moissons. Et lui fera ça. Mais cette parabole ne parle pas de l'Église. Contrairement à ce que pensait Calvin, ou Luther, ou toute une tradition. Je suis un baptiste convaincu, de théologie baptiste, je veux dire. L'église perspective, c'est l'église baptiste. Hein. C'est l'église où on est membre, où on devient, on dit, on fait partie du peuple de Dieu parce qu'on s'est converti personnellement à Jésus-Christ. Donc je crois en l'église de professants. Alors ça ne veut pas dire que tous sont chrétiens, mais au moins, c'est des églises de professants. Et l'église ne se confond pas avec la société. Et dans Matthieu 13, dans la question de la parabole livrée, il n'est pas question de l'église, il est question de la société. Ce n'est pas le concordat.
Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est très patient.